إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ensuite, الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى دي ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعين بالله. Donc la preuve concernant la demande d'aide réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Ainsi que dans le hadith, si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. La personne a recours à la demande d'aide soit pour l'accomplissement d'un bien ou le repoussement d'un mal. Et celle-ci se divise en différentes catégories. La première est de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit d'une demande d'aide qui est accompagnée d'une totale humilité de la part du serviteur envers son Seigneur, tout en lui confiant la gestion des choses et en ayant la conviction qu'il suffit à satisfaire cette demande. Cette forme de demande d'aide ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. La preuve à ce sujet réside dans le verset et le hadith authentique mentionné par l'auteur. Aussi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in »« C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide », c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait dit en dehors du Qur'an « N'adorez rien d'autre que moi et n'implorez l'aide de personne d'autre que moi ». Ceci démontre donc l'interdiction de vouer l'adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que l'interdiction d'implorer l'aide d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, selon la définition que l'on vient de lui donner, c'est-à-dire lorsque cette demande d'aide est accompagnée d'une totale humilité, tout en confiant la gestion des choses et en ayant la conviction qu'il suffit à satisfaire la demande. L'exclusivité de ce type de demande est déduite du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé le terme désignant celui qui est imploré, Iyaka, c'est toi seul, avant le verbe désignant l'acte lui-même, Na'budu Nasta'i, que nous adorons, dont nous implorons l'aide. Or, la règle dans la langue arabe est que mettre en avant un terme qui devrait être en postposition indique la spécificité et l'exclusivité de celui-ci, comme nous l'avons déjà évoqué dans différents cours précédents. Taqdim ma haqqu ta'khir yufidu al-hasr wal-qasr. Par conséquent, vouer cette catégorie de demande d'aide à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une forme de polythéisme majeur, excluant de l'islam celui qui s'en rend coupable. Aussi, certains savants disent que la demande d'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure invocation du serviteur. De même, ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a précisément cité la demande d'aide dans ce verset, malgré que celle-ci soit comprise dans le terme adoration qui est cité avant, par rapport à son importance et parce que l'adoration ne peut être réellement réalisée qu'avec son aide. C'est-à-dire quand on voit dans le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit « Wa iyyaka nasta'in » et « C'est toi seul dont nous implorons l'aide », en réalité, ici, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné, malgré qu'avant, il ait mentionné l'adoration qui englobe justement la demande d'aide, de par l'importance de cette demande d'aide et parce qu'en réalité, l'adoration elle-même ne peut être réalisée qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset cité par l'auteur démontre que l'adoration ne peut se concrétiser que lorsqu'elle est accompagnée de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, parmi les preuves à ce sujet, réside, on peut trouver donc le hadith de Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, lorsqu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par la main, puis lui a dit « Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk, aussi ka'alla tada'anna fi duburi kulli salat, an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ». lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô Mouad, par Allah, je t'aime, puis je te recommande, ô Mouad, de ne jamais manquer de dire à la fin de chaque prière: ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et t'adorer comme il se doit. Et il faut savoir que les savants ont divergé quant au sens de fidouburi kulli salah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin de chaque prière. Certains ont vu que cela voulait dire après la salutation. Une fois que la prière est conclue, que la personne a fait sa salutation, elle fait cette évocation. Alors que d'autres ont vu que c'était à la fin de la prière, mais c'est-à-dire avant la salutation. C'est ce qui paraît être le plus vrai, comme le confirment certaines versions du hadith. De même que on peut le voir dans la langue arabe. Lorsque l'on dit Duburul Hayawan, la fin d'une chose peut faire partie de cette même chose. Donc, ceci n'impose pas qu'elle se fasse après. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le fait de rechercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers des actes et des comportements aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette catégorie est recommandée. Et la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: wasta'inu bis-sabri was-salah. Rechercher secours dans l'endurance et la prière. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit chercher secours dans l'endurance, wasta'inu bis-sabri, c'est parce que la personne est faible face à l'obéissance d'Allah azza wa jalla, ainsi que face à ses interdits et à son décret. De ce fait, la personne doit chercher le secours dans l'endurance pour compenser cette faiblesse. Vous vous souvenez, on a vu qu'il faut patienter dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la troisième catégorie est de demander l'aide d'un être vivant pour une chose qu'il est capable d'accomplir. Et ça, c'est les conditions à chaque fois que l'on mentionne lorsque c'est autorisé. C'est-à-dire que la personne doit être vivante, elle doit être présente et elle doit être en capacité d'accomplir ce qui lui est donc demandé. Cette forme de demande d'aide va dépendre, ou du moins le jugement de cette forme de demande d'aide va dépendre de la chose à accomplir. C'est-à-dire, si cette chose est un acte de bien, alors il est bien, il est permis de demander de l'aide et il est recommandé à celui à qui est fait cette demande d'y répondre. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. En revanche, si la chose à accomplir est une mauvaise œuvre, il est alors interdit de demander de l'aide pour sa réalisation. Tout comme il est interdit à celui à qui est fait cette demande d'y répondre. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la fin du verset: wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Enfin, si cette demande d'aide concerne un acte permis, alors cette demande est permise, tout comme il est permis d'y répondre, en plus du fait que celui qui y répond pourra être récompensé pour avoir fait le bien, en fonction de son intention. Répondre à cette demande devient donc un acte recommandé, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: wa ahsinu, inna Allaha yuhibbul muhsinin. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Ensuite, la quatrième catégorie est de demander l'aide d'un être vivant, présent, mais qui est dans l'incapacité de répondre à cette demande. Cette demande n'est que futilité et ne sert à rien. Comme par exemple le fait de demander à une personne faible de porter un objet lourd. Cette demande ne rime à rien. Et la cinquième et dernière catégorie est le fait de demander l'aide aux morts, de manière absolue, ou aux êtres vivants pour une chose invisible qu'ils ne peuvent atteindre. Cet acte est une forme de polythéisme majeur qui excommunie la personne sans rendant coupable. Car cette demande ne peut émaner que d'une personne convaincue que cet être a un pouvoir occulte sur la création. Ensuite, le shir nous dit: wa dalilu l'istirada qawluhu ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq. La preuve concernant la demande de protection se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal: dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante », ainsi que dans sa parole dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes ». Al-Istirada, c'est la demande de protection. Et la protection correspond, elle, au fait de s'orienter, de se tourner vers autrui. Et cette demande de protection ne se fait que contre un mal. Car en arabe, on utilise le terme « a'oudou » avec un « aïd » lorsque l'on veut fuir une chose dans laquelle il y a un mal. Alors que l'on va utiliser le terme « aloudou » avec un « lem », le fait de recourir, lorsque l'on demande quelque chose dans laquelle il y a un bien. Ainsi, celui qui demande protection se met sous la tutelle de celui qui l'implore et s'attache fermement à lui. Et il faut savoir qu'il existe différentes sortes de demandes de protection. La première, c'est la demande de protection que l'on formule à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Elle implique la dépendance totale du serviteur envers son Seigneur. Le fait de le prendre pour appui, d'avoir la conviction qu'il suffit comme protecteur et que sa protection contre toute chose est parfaite. Les preuves à ce sujet sont les deux sourates citées par l'auteur. Surat al-Falaq, l'aube naissante, et Surat al-Nas, les hommes. Aussi, dans les trois premiers versets de Surat al-Nas, réside la preuve de la répartition de l'unicité en trois catégories. On retrouve l'unicité de la seigneurie, Tawhid al-Rububiyyah, dans la parole Qul a'oudhu bi rabbin nas, dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Puis, l'unicité des noms et attributs, Tawhid al-Asma wa sifat, dans la parole Malik al-Nas, le souverain des hommes. Enfin, l'unicité de l'adoration, Tawhid al-Uluhiyya, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Ilahi al-Nas, Dieu des hommes. Ainsi, nous voyons que les savants n'ont pas divisé l'unicité en trois catégories aléatoirement, ou d'après leur propre personne, comme certains s'attachent à le dire et le faire croire. Mais plutôt d'après l'analyse des textes du Coran et de la Sunna authentique. Et le premier à avoir évoqué cette classification de l'unicité est Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari, qui est décédé, lui, en l'an 182 de l'Hégire. Ensuite, la deuxième catégorie est le fait de chercher protection auprès d'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme sa parole, ou sa grandeur, sa puissance, et autres attributs similaires parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve à ce sujet se trouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq » Je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal des êtres qu'il a créés. Ainsi que dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, A'udhu bi adamatik an akhtala min tahti. Je cherche protection auprès de ta majesté contre le fait que la terre s'ouvre sous moi. Aussi, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'invocation contre la douleur. Lorsqu'il a dit « A'udhu bi'izzatillahi wa qudrati min sharri ma ajidu wa uhadir » Je cherche protection auprès de la puissance et le pouvoir d'Allah contre ce que je ressens et appréhende. De même que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam « A'udhu biridaka min sakhatik » Je cherche protection auprès de ta satisfaction contre ta colère. Et lorsque le verset قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est capable, lui, de susciter contre vous, d'en haut ou de dessous vos pieds, un châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam implora Allah subhanahu wa ta'ala en disant les paroles suivantes. أَعُوذُ بِوَجْهِكَ Ô Allah, je cherche protection auprès de ton visage. Non. Ensuite, la troisième catégorie est le fait de demander la protection à un mort ou un être vivant absent, incapable de protéger qui que ce soit. Cette catégorie de demande de protection est une forme de polythéisme majeur qui excommunie de l'islam la personne qui s'en rend coupable. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Ensuite, la quatrième catégorie est le fait de chercher protection auprès d'un élément capable de protéger, qu'il s'agisse d'un être humain, d'un lieu ou autre. Et cela est permis. La preuve à ce sujet est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il cita les troubles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Man tasharrafa laha tastashrifuhu wa man wajada malja'a aw mu'ada falyu'ad bihi. Donc quiconque voudra s'immiscer dans les troubles se verra englouti par eux. Et que celui qui trouve un refuge ou un abri aille y chercher protection. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié cet abri et ce refuge lorsqu'il a dit après, donc, فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلْ فَلْيَلْحِقْ بِإِبِلِهِ. Que celui qui possède un troupeau de chameaux le rejoigne. Non. Aussi, nous trouvons dans le hadith dans lequel il est dit qu'une femme appartenant à la tribu des Bani Ma'uzoum, parmi donc les gens de cette tribu, il y avait une femme qui avait volé. Et dans cette tribu de Bani Ma'zoum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, a demandé à la faire venir. Lorsqu'elle est venue, elle cherchait protection auprès d'Umm Salama radiallahu anha. Comme ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, d'après Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu. Il y a aussi le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: donc, une personne chercha protection auprès de la maison d'Allah, Al-Ka'ba, et un groupe lui sera alors envoyé. Ya'udhu 'a'idun bil bayti fayub'athu ilayhi ba'th. De ce fait, si quelqu'un nous demande protection contre les méfaits d'une personne injuste, alors il nous est obligatoire de lui accorder refuge et le protéger autant que possible. Par contre, si cette personne nous demande protection pour réaliser une mauvaise œuvre ou pour fuir une obligation, alors il est interdit de lui accorder le refuge. Donc ça va dépendre en fonction, le jugement va dépendre de cette chose qui est demandée. Pourquoi la personne va demander la protection. Ensuite, l'auteur nous dit: وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِتَّسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. La preuve concernant la demande de secours se trouve dans la parole d'Allah quand vous implorez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Al-istirafa est une sorte de demande plus précise que les deux précédentes, la demande d'aide, al-istirana, et la demande de protection, al-istirada. Elle correspond à la demande de secours. Et le secours, lui, consiste à tirer un être de la difficulté ou le sauver de la mort. Et cette demande se divise donc en plusieurs catégories. La première, la demande de secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit d'une des meilleures et plus parfaites actions, qui est d'ailleurs donc l'habitude des prophètes, alayhim salatu wassalam, et de leurs adeptes. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala citée par l'auteur: ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Et ce verset a été révélé à l'occasion de la bataille de Badr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam aperçut les polythéistes au nombre de 1000, alors que ses compagnons étaient un peu plus de 300 seulement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam pénétra dans sa tente pour implorer son Seigneur, en levant les mains en direction de la Qibla. Puis il a dit: Oh Allah, accomplis la promesse que tu m'as faite. Oh Allah, si tu anéantis cette poignée de musulmans, tu ne seras jamais plus adoré sur terre. Et Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa d'implorer le secours de son Seigneur en levant les mains jusqu'à ce que le manteau qu'il avait sur ses épaules tomba. Et Abu Bakr radiallahu anhu alors ramassa le manteau et revêtit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis se posta derrière lui et lui dit: ô messager d'Allah, ton imploration est suffisante, car Allah accomplira certes les promesses qu'il t'a faites. Et c'est alors que le verset précité fut révélé, comme ceci fut rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, d'après Omar ibn al-Khattab, ainsi que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhum. Ensuite, la deuxième catégorie est la demande de secours auprès d'un mort ou d'un vivant absent et qui ne peut donc être d'une quelconque ou d'un quelconque secours. Cet acte est une forme de polythéisme majeur, car il ne peut émaner que d'une personne convaincue que cet être a un pouvoir occulte sur la création. Il lui accorde donc une part de seigneurie, al-rububiyya, qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرْ إِدَّعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous a fait ou qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah, mais vous ne vous rappelez que rarement? Ensuite, la troisième catégorie, c'est la demande de secours auprès d'un être vivant pour une chose qu'il est capable d'accomplir. Ceci est permis au même titre que la demande d'aide. Al-Istirana. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en mentionnant l'histoire de Moussa: فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. L'homme de sa tribu l'appela au secours contre son ennemi. Moussa lui asséna un coup qui lui fut fatal. Aussi, il y a une preuve à ce sujet dans le hadith dans lequel est racontée l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il laissa son épouse et son fils Ismaïl près de la Kaaba, avec un sac de dattes et une outre pleine d'eau, alors qu'il n'y avait personne à la Mecque, comme il n'y avait pas d'eau. La mère d'Ismaïl se mit à allaiter son fils et à boire de cette eau jusqu'à ce que l'outre se vida et que son petit Ismaïl alayhi salam eut soif. Elle le regardait tandis qu'il se tordait de douleur et s'éloignait pour ne pas le voir dans cet état, jusqu'à ce qu'elle montât sur le mont de Safa, le plus proche monticule de cette terre. Elle monta à son sommet et se mit à scruter la vallée dans l'espoir de voir quelqu'un, mais elle ne vit personne. Elle descendit alors le monticule jusqu'à ce qu'elle arriva à la vallée. Elle releva un peu sa tunique et marcha en s'empressant comme celui qui ployait sous une lourde charge. Une fois arrivée à l'autre bord de la vallée, elle trouva donc le monticule d'Al-Marwa, au sommet duquel elle monta et elle scruta l'horizon dans l'espoir de voir quelqu'un, mais ne vit personne. Donc ça, c'est justement pour ceux d'entre vous qui le savent déjà, ou d'autres, c'est-à-dire pour ceux qui ont déjà accompli Al-Umra, c'est la circumambulation que l'on fait entre As-Safa ou Al-Marwa en faisant 7 fois. Donc la femme d'Ibrahim alayhi salam le fit 7 fois, et une fois arrivée donc au sommet de Al-Marwa, elle entendit une voix et elle se dit à elle-même: tais-toi. Elle dressa à nouveau l'oreille et entendit encore la même voix. Elle dit vers l'endroit d'où venait ce bruit: maintenant que tu t'es fait entendre, aurais-tu de quoi nous secourir? C'est alors qu'elle vit l'ange Jibril qui se mit à fouiller la terre avec son talon jusqu'à ce que l'eau apparût. On voit donc l'autorisation de demander donc secours auprès d'une créature vivante et qui est capable donc d'accomplir cette demande. La quatrième et dernière catégorie est la demande de secours à un être vivant qui est incapable de secourir, mais sans pour autant croire que cet être a un pouvoir occulte. La personne donc qui demande secours à cette personne, elle ne croit pas que cet être-là à qui elle fait cette demande a un pouvoir occulte. Au contraire donc de la catégorie numéro 2 que l'on a citée. comme par exemple le cas d'une personne qui est en train de se noyer. Et elle va demander à un handicapé physique de le secourir. Ceci n'est qu'une futilité et c'est une façon, voire même, de se moquer de la personne à qui on demande secours. C'est donc interdit pour ces raisons. Il y a même certains savants qui ont considéré, donc, voire une autre raison à celle-ci, pour l'interdiction de ce type de demande de secours, qui est la possibilité qu'une tierce personne, en voyant le noyé demander secours à l'handicapé, pourrait penser que ce dernier a un pouvoir occulte, lui permettant de tirer les gens de la difficulté.